suivez votre instinct, la vie va naturellement vous orienter vers des directions. N'essayez pas de rentrer dans des cases, n'essayez pas de rentrer dans des moules. Le monde, il évolue très vite. Moi, j'étais destiné à faire tout autre chose. Ce que je fais aujourd'hui et ce qui fait notre succès et ce qui va faire notre fortune dans le futur, c'est pas ce que je faisais il y a 5 ans et c'est peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, apprenez à vous connaître et le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est en testant des choses, en étant curieux et ouvrez votre esprit et voilà.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Charlie.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Bah écoute, ça va très très bien.
Magnifique.
Très content, honoré d'être ici.
Eh ben moi aussi, je suis très content de t'avoir ici sur Le Déclic. On se connaît depuis un petit temps maintenant. Les gens vont peut-être l'entendre à notre on va dire, sympathie dans le discours qu'on va pouvoir avoir et la proximité. Voilà, chercher le mot, la proximité qu'on va pouvoir avoir et ce qui fait qu'on va pouvoir creuser sur certains sujets. Charlie, quand on connaît ton histoire, je pense que Le Déclic a été conçu pour des gens qui ont un parcours comme le tien. Donc j'ai hâte et je suis enthousiaste à l'idée d'enregistrer cet épisode. Je vais rapidement te présenter comme je le fais à chaque fois. Tu es autodidacte et passionné d'informatique et de technologie. Aujourd'hui, tu es le cofondateur de la marque de compléments alimentaires Fit Body Curve, créée en 2016 historiquement par ta femme. Votre mission principale, c'est de révolutionner le domaine tout en démystifiant les clichés que peuvent avoir les gens sur les compléments alimentaires, notamment dans le domaine du régime. Mais tu es aussi la preuve vivante que tout est possible, puisque tu es arrivé en France en 2012 dans des conditions qui étaient bien particulières. Et comme tu le dis souvent toi-même, les gars comme moi ne finissent pas chef d'entreprise. En 2017, d'ailleurs, tu te trouves carrément à la rue, d'où tu as le déclic de ta vie. On va en parler, il y a pas mal de choses dont on va parler ici aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dégagez un très beau chiffre d'affaires, un énorme chiffre d'affaires d'ailleurs pour la plupart des gens qui nous écoutent. On en parlera aussi de comment tout ça est structuré et comment t'en es arrivé jusqu'ici. Avant qu'on démarre, j'ai envie de mettre en lumière encore une fois un ou une de nos auditrices qui ont mis un avis, qui cite la qualité des podcasts. Et merci pour votre soutien. Celles et ceux qui nous écoutaient aujourd'hui, si vous n'avez pas encore mis les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou la plateforme de streaming préférée, faites-le. L'avis, je le cite, toujours très instructif. J'aime beaucoup le ton et le questionnement d'Alec, qui sait mettre en avant son invité et l'écouter activement et le questionner. Il y a toujours des infos pertinentes à tirer des épisodes comme celui-ci. Bah écoute, on va faire en sorte, Charlie, que d'être à l'image de cet avis, de cet auditeur qui nous a été laissé. Je vais essayer de te questionner de la meilleure façon qui soit, de te mettre en lumière, de t'écouter attentivement et puis de faire en sorte qu'on tire de tout ça des informations pertinentes. J'ai envie de commencer par le début, le démarrage. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, quels étaient tes rêves lorsque tu étais enfant, notamment aussi lorsque tu étais avant d'arriver en France en 2012? Comment ces rêves ont-ils influencé et contrasté avec le chemin que tu as finalement emprunté?
Écoute, bah déjà merci Alec, merci les auditeurs. Comme je l'avais dit à Alec la dernière fois, c'est assez marrant parce que le déclic, moi-même je l'écoute, le podcast, et dans ma boîte, en fait, tous les employés l'écoutent de manière assez récurrente au bureau. Et du coup, ça fait assez drôle de se retrouver de l'autre côté du micro. Et du coup, même eux, bah, je vais pouvoir leur apprendre des trucs aujourd'hui que peut-être qu'ils n'avaient pas connaissance. Donc, écoute, moi, c'est Charlie, j'ai 32 ans. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis le cofondateur de Fit Body Curve. Donc, c'est une marque de compléments alimentaires. Aujourd'hui, on fait principalement du complément alimentaire. Historiquement, c'était des gaines amincissantes. Donc, on est toujours dans la minceur. Et en gros, pour te parler un peu de moi, moi, je suis originaire de la Guadeloupe, donc dans la Caraïbe française. Et je suis arrivé en France, donc ma vie d'adulte vraiment elle a commencé quand je suis arrivé en 2012 en France. Donc de manière un petit peu abrupte, donc en gros j'ai un peu quitté Lille parce que j'avais pas le choix. Je suis arrivé pour travailler en gros parce que c'était des conditions assez particulières sur Lille. Il y avait eu des grèves, des mouvements sociaux qui fait que niveau travail c'était compliqué. Il faut savoir que moi, j'ai eu une enfance normale, on va dire. Je n'ai pas manqué de grand-chose, si ce n'est, on va dire, on me nourrissait bien, quoi. Mais on n'avait pas les derniers PlayStation, on n'avait pas les derniers vélos, donc j'ai eu une enfance, on va dire, assez normale. J'ai eu une enfance heureuse en soi, je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Mes parents sont issus de la classe ouvrière, mais c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. Et du coup, j'ai grandi en Guadeloupe une bonne partie de ma vie. Il faut savoir que je suis né en France quand même. Donc, je suis né en France et je suis parti après très tôt vivre en Guadeloupe. Donc, mais j'ai grandi globalement là-bas. Et du coup, moi, j'ai toujours eu des soucis avec l'école. En gros, je l'ai compris plus tard pourquoi. Et du coup, je pense que c'est un petit peu lié au pourquoi je me suis lancé, que j'ai lancé ma boîte en 2017. J'ai toujours eu un souci avec l'autorité. Faut savoir que j'ai redoublé trois fois. J'ai redoublé deux fois la sixième et une fois la seconde. Alors pour les Français qui m'écoutent, du coup, c'est des classes qui sont assez clés, quoi. On va dire début de collège et début de lycée. Donc du coup, c'est des moments en fait un petit peu charnières dans la vie d'un étudiant. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de comportement, donc j'étais un enfant assez perturbateur, on va dire. En plus j'avais reçu une éducation plutôt dure, on va dire, donc une éducation assez stricte, mais ça n'a pas empêché, on va dire, de faire des conneries. Donc du coup forcément j'avais pas de bagage en gros à présenter sur la table. Et quand on veut travailler, il faut pouvoir présenter des diplômes pour trouver du travail facilement. Et aux Antilles, c'est pas aussi simple que ça. Aux Antilles, forcément, déjà que quand t'as des diplômes, du travail, il y en a pas beaucoup. Alors si t'en as pas, ce sera encore plus compliqué pour toi. Moi, je suis passionné d'informatique aussi. Donc en fait, depuis assez jeune, j'ai un oncle qu'un jour avait ramené un ordinateur à la maison. Et du coup, je suis tombé amoureux de ça. Et je me souviens qu'au début, en plus, on n'avait même pas Internet. Donc on utilisait l'ordinateur, en fait, on avait juste que ça à faire, c'était nouveau à la maison. Moi, j'avais pas de PlayStation, j'avais pas tout ça. Donc du coup, c'était assez nouveau d'avoir un peu de technologie à la maison. Et du coup, en fait, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Et à force de fouiller et tout, j'ai commencé à apprendre, donc de manière autodidacte. Après, il a commencé à avoir Internet. Et au fur et à mesure, indirectement, moi, pour le peu d'école que j'ai fait, j'étais dans un cursus pro. Donc, j'ai fait un bac pro, en gros. C'est le seul diplôme que j'ai eu aujourd'hui. J'ai un bac pro en système électronique numérique. Donc, en gros, c'est un bac pro informatique, en gros. Et du coup, après, j'ai tout de suite travaillé. Donc, mes premiers stages, mes alternances. Enfin, même après, j'ai fait beaucoup d'intérim, beaucoup de petits contrats, CDD. J'ai eu ma dernière expérience, c'était de 2015 à 2017. C'était un CDI. C'était mon seul CDI, d'ailleurs, que j'ai eu. Donc, ça montre un petit peu... mon instabilité au niveau de ma vie professionnelle, en tout cas de salarié. Enfin, j'ai jamais réussi à me trouver. Et le problème que j'avais, c'était plus pareil qu'à l'école, quoi. J'ai toujours ce souci d'obéir aux ordres, de faire ce qu'on dit, d'être mis dans une case. Toi, tu vas faire ça et tu ne feras que ça. Et c'est nous qui déciderons de ce que tu feras après. J'ai toujours eu ce problème-là. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que j'ai toujours fait la même chose. Donc du coup, j'ai acquis pas mal d'expérience professionnelle très tôt, assez jeune, qui fait qu'avant de lancer ma boîte, j'avais déjà un beau background. La notion du travail, je l'ai depuis un moment. J'ai toujours fait des petits jobs, parce qu'il faut savoir qu'aux Antilles, c'est culturellement... naturellement, en fait, quand tu es jeune, quand tu as 14, 15 ans, tu dois aller chercher l'argent, quoi, parce que tes parents vont pas te le donner si tu veux sortir. Donc j'ai eu un passage un petit peu particulier dans mon enfance où le choix entre le bon chemin et le mauvais chemin, la frontière, elle est très fine là-bas. Faut savoir que aux Antilles, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors. Et du coup, malgré l'éducation que j'ai pu recevoir, je me suis retrouvé un peu dans des travers. Donc, ce n'est pas des choses que je détaille généralement, parce que ce n'est pas des choses que j'ai envie de mettre en lumière, dans le sens où ça a fait... c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal, en fait, à mes proches, à ma famille. Mais en gros, je me retrouvais dans la rue à faire, on va dire, ce qu'il y a à faire pour ne pas faire la promotion de ça. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis parti en 2012, parce que j'ai été un petit peu mis de côté par mes proches et une partie de ma famille par rapport à tout ça. Il fallait que je puisse m'échapper de cet enfer, m'échapper de cet environnement. j'avais un talent, c'était les ordinateurs. C'est un truc que je faisais de manière bien. Et je me suis dit, bah, faut que j'aille le faire ailleurs, faut que je puisse découvrir le vrai monde du travail, mais le try clean, faire quelque chose que j'aime. Donc ça, j'aime ça. Donc c'est une des rares choses que j'ai toujours aimé. Et du coup, bah, je suis arrivé en France et c'est comme ça que ça a commencé après.
Merci déjà pour ce partage. Et effectivement, ça en dit long sur aussi la personnalité que tu t'es forgée, la personne que je connais où tu as envie d'être hors du cadre et les règles qui sont imposées, préconçues, ou les systèmes qui sont imposés ne conviennent pas forcément. On en reviendra justement parce que c'est, je pense, le propre de l'entrepreneur et c'est ce qui fait aussi la réussite que vous avez aujourd'hui. Donc, tu arrives en France en 2012. Qu'est-ce qui se passe entre 2012 et 2017 avant d'arriver finalement au déclic qui a tout changé pour toi ?
Écoute, il se passe plein de trucs, Alec. Premièrement, je suis arrivé un petit peu par hasard. Donc, mon départ, il s'est fait... j'ai eu un déclic, tu vois. Je me suis dit, OK, le peu d'argent que j'ai, je le prends, je le mets dans un billet d'avion. Et, la chance que j'avais, c'est que ma sœur, en fait, elle habite en France. Alors, au niveau de ma famille, moi, j'ai deux grands frères et une sœur. Et mes deux grands frères, eux, sont dans le sud, donc ils sont plus avec moi, ils avaient leur vie, on va dire. Mais ma sœur, elle a été en région parisienne. Donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'arrive en France, billet aller, pas de but précis. Je me suis dit, je vais reprendre mes études, je vais essayer de commencer un BTS, donc pareil dans l'informatique, pour essayer de travailler. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de rentrer dans les cases, on va dire, tu vois. Sauf que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc, au début, j'étais chez ma sœur. Après, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé mon alternance. Donc, j'étais à l'école et en même temps en alternance. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré un an. La seule chance que j'avais, c'est que j'avais réussi à me loger. Donc, du coup, j'habitais dans un tout petit studio en plein Paris de 17 mètres carrés où je suis resté 2 ans. Donc, de 2012 à 2014, début 2015. Et le problème, en fait, c'est que le travail que j'avais à ce moment-là, je l'ai perdu, en fait. Donc, j'ai fait une faute grave. Pour t'expliquer, en gros, il m'avait... c'est assez marrant, parce que c'est un truc où je n'étais pas à l'aise de le raconter. Maintenant, je le raconte sans problème. En gros, je m'étais mis... j'avais une mauvaise gestion, en fait, du petit salaire que je touchais. Et comme je te dis, parce que c'était assez nouveau pour moi. Et du coup, en fait... j'avais mal géré mon salaire et un jour, il m'avait envoyé avec la carte de la société chercher du matériel informatique. Et ce que j'avais fait, en fait, c'est que j'avais retiré de l'argent pour pouvoir l'acheter, tu vois, ce matériel. Donc, j'ai retiré, c'était pas grand-chose, en plus, je crois que c'était 150 euros, tu vois. Et arrivé sur place, je me suis rendu compte que je pouvais payer sur place avec la carte de la société. Et en fait, j'avais pris une partie de ce cash pour m'acheter à manger. Et je me suis dit, tiens, ça a passé, tu vois. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, non, le monde, il fonctionne pas comme ça, tu vois. Et du coup, je m'étais fait virer bêtement pour faute grave. Donc, c'est un truc que je raconte aujourd'hui. C'est vraiment une erreur de jeunesse, c'est assez marrant. Et ce qui s'est passé après, c'est que je me suis retrouvé un peu sans boulot. Et du coup, bah, en fait, j'avais perdu mon boulot qui était lié à mon école. Et du coup, bah, j'ai arrêté l'école, quoi. Donc, est-ce que je le voulais ? Je ne sais pas, mais indirectement, je me suis senti un peu soulagé de ne pas devoir aller jusqu'au bout de ce diplôme qui en fait, je n'avais pas envie de le faire. Je le faisais parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais je n'avais pas envie de faire ce truc-là. Moi, j'avais juste envie de bosser, j'avais envie de gagner ma vie, j'avais envie de me structurer, de créer quelque chose de concret, tu vois. Mais je n'avais pas forcément envie d'avoir un diplôme, quoi, parce que je n'ai jamais vraiment été dans ça. Donc après, ça s'est enchaîné assez naturellement. J'ai trouvé des boulots d'informatique en intérim principalement. Donc de 2015 à 2016 à peu près, j'étais beaucoup en intérim. Après, j'avais eu un truc un peu plus stable. Donc un contrat en CDD, on appelle ça en France. Donc un contrat à durée déterminée, toujours dans l'informatique, de 2016 à mi-2017. Et à cette époque-là, en fait, j'étais avec une... Alors, pas avec ma femme actuelle, mais avec une ancienne compagne, du coup. Et ça s'était assez mal passé. J'avais mal géré. J'avais pas cette notion. J'étais assez mal entouré à cette époque aussi. Et du coup, en fait, ma relation s'est assez mal terminée. Et du coup, assez bêtement, je me suis retrouvé dehors. J'ai pensé que je pouvais rebondir, retrouver un logement et tout, parce qu'en fait, j'étais logé avec elle et du coup, moi, j'ai laissé l'appart, quoi. Je suis parti. Et du coup, en 2017, je me suis retrouvé dehors. Je me suis retrouvé à la rue. De fin avril à début juillet. Donc, je ne suis pas resté longtemps. Pour donner un peu de précision sur comment ça s'est passé, le seul truc que j'avais, c'est que j'avais ma voiture. Donc, en gros, je dormais dans ma voiture. Et le deuxième truc qui me restait, c'était mon travail. Donc, à cette époque, pour donner des chiffres, je survivais avec 1300 euros par mois, une voiture, avec un coffre rempli de vêtements. Et j'étais sous l'eau en termes de dette parce que je m'étais endetté en fait pour des trucs, des crédits à la consommation. J'avais acheté des voitures, au final, je les avais revendues. Au final, je continuais à payer un crédit alors que j'avais plus la voiture. En gros, j'étais rentré dans un cercle vicieux parce que c'était assez nouveau, tu vois, pour moi d'avoir un boulot stable et tout. Et j'étais assez mal entouré. Et comme quoi, l'entourage, bon, on en reparlera plus tard dans le podcast, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important, tu vois. Même dans le début de sa vie, il faut savoir s'entourer parce que moi, dans le début de ma vie, l'entourage, il m'a pas aidé en fait. Il m'a tiré vers le bas, il a failli me tuer, il a failli me couler. Et là, en gros, je me suis retrouvé dans un enfer dans lequel je m'étais pas retrouvé depuis très longtemps, que je pensais avoir échappé justement en arrivant en France en 2012, en me disant « Ok, je suis arrivé dans un endroit pour faire quelque chose, ça a bien commencé et je suis en train de tout gâcher ». Et c'est pendant ce moment de vie qui était assez difficile. En gros, je dormais dans ma voiture, j'allais au travail, je dormais dans ma voiture. Des fois, je me lavais, tu sais, dans des... Il y a des genres de refuges où, pour les personnes qui veulent dormir dehors, où tu peux juste rentrer pour prendre une douche, etc. Donc, je te passe les détails des conditions, mais c'est assez particulier. Mmh. Parce que moi, je ne vais pas me classifier de SDF. Par contre, je dormais dehors, quoi. Mais j'avais une voiture. En fait, j'étais pas dans l'extrême de la personne qui est dehors depuis 6 mois sans un sou. La chance que j'avais, c'est que j'avais encore cette voiture-là et que j'avais encore mon travail, tu vois. Donc, on va dire, j'arrivais à survivre. C'est juste que j'étais pas logé, quoi. Et que c'était pas possible pour moi de me loger.
Ouais.
Donc, assez difficile. Et c'était marrant parce que je dormais très exactement pour ceux qui connaissent à Paris. Il y a une station qui s'appelle Villejuif, Louis Aragon. Donc, c'est une station de métro. Et c'est une rue où, en fait, il y a beaucoup de banques. Et il y avait un parking, en fait, qui était en travaux. Donc, du coup, la porte du parking a resté ouverte. Et du coup, ça me permettait de descendre le soir avec ma voiture. Et je me garais à côté, tu sais, d'une bouche d'aération, tu sais, les trucs qui soufflent, les aérations. Et tu sais, l'air, il est assez chaud. Mmh. Qui fait que ça me permettait de ne pas allumer ma voiture pour mettre le chauffage. Parce qu'il faut savoir, au mois de mai, il ne faisait pas très froid. Mais la nuit, il ne faisait pas chaud non plus. Et puis, bref, ce n'est pas des conditions très agréables. Donc, bon, la chance, c'est que je me suis retrouvé, on va dire, à cette situation, je n'étais pas en hiver. Donc, c'est le point positif, on va dire. Et c'est au même moment, en fait, la même période où j'ai vraiment appris à me connaître. Car cette situation-là, j'ai voulu l'affronter seul. J'ai pas voulu... Les gens ont été au courant de mes problèmes quand je les avais réglés, en fait. Et c'est un moment où, en fait, je me suis retrouvé seul. J'ai pas cherché non plus à ce qu'on m'aide. Je pense que, de toute manière, on n'aurait pas pu m'aider. Il y a des personnes qui étaient au courant sans que je leur dise. Les gens, ils savent toujours un petit peu des choses. C'est du bouche-oreille, quoi. Donc, c'est des bruits de couloir. Mmh. Mais qui, en sachant ça, n'ont pas cherché à m'aider. Aujourd'hui, je leur en veux toujours pas, tu vois, parce que je me dis que au contraire, c'est un service qu'ils m'ont rendu parce que j'ai réellement appris à me connaître à ce moment-là, parce que je me suis dit, en fait, là, j'ai juste pas le choix, en fait. C'est soit je retourne en Guadeloupe et je recommence à foutre la merde et du coup, l'avenir pour les gens qui font ça, il y en a pas, en fait, tu vois. Ou soit je me remets en question réellement sur ce que je veux faire de ma vie et où je veux aller et comment je veux le faire, tu vois. Et du coup, au même moment, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré ma femme, qui est mon associée aujourd'hui, qui s'appelle Ludy. Et en fait, Ludy, ça se passe que quand je l'ai rencontrée, moi, j'étais dans cette situation. Au début, elle ne savait pas, en fait. Donc, moi, je me suis présenté un petit peu de la bonne manière, tu vois. Donc, voilà, je suis informaticien, je travaille dans un grand groupe, etc. Enfin, voilà. Et elle, en fait, par contre, elle avait une vraie situation à ce moment-là. Et c'était assez marrant. Parce qu'elle était gestionnaire du parc automobile de tout le groupe Accor Hôtel. Mmh. Donc, elle avait un poste assez important pour te dire à donner la clé de la voiture au PDG, tu vois, à Sébastien Bazin à cette époque et tout. Donc, elle avait un beau poste, femme indépendante, qui n'a pas besoin de moi, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre qu'est-ce qu'elle me trouve, en fait, tu vois. Et c'était la seule personne, en gros, qui m'a tendu la main, parce qu'à un moment, bah, forcément, elle s'est rendue compte du problème. Et je ne vais pas dire qu'elle a tout fait pour moi à ce moment-là, mais elle m'a clairement sorti de ma merde. Elle m'a clairement sauvé. Et aujourd'hui, je lui dois quasiment tout à ce niveau-là. Je lui dois tout. Et c'est elle qui m'a permis de remonter la pente, qui m'a permis de m'aider. Pour te dire, elle m'a permis de retrouver un logement. Elle m'a porté des sacs de courses. Elle m'a porté des draps. Elle m'a porté des oreillers. Et vraiment des trucs qui étaient hyper gênants, tu vois, en tant qu'homme. Tu vois, on a tendance à se dire, tu sais, souvent, c'est l'homme qui mène le foyer, tu vois. Enfin, c'est culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Et bah, en fait, moi, j'ai accepté difficilement cette aide. Donc, du coup, au début, c'était un peu bizarre. Et après, j'ai vite compris que... En fait, au début, j'ai cru que c'était un piège, tu vois. C'était bizarre, en fait, ce qui m'arrivait. Je me dis, mais comment une personne qui ne me connaît pas, qui n'a pas besoin de moi, peut me tendre la main comme ça? En fait, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Et depuis ce jour-là, après, on ne s'est jamais quitté. Et on a évolué comme ça. Et c'est de là que j'ai pu remonter la pente avant même de me lancer, hein. Déjà me remettre sur pied, quoi, me dire, ok, déjà, je vis normalement, je travaille normalement, j'écoule mes dettes, je me restructure. Et c'est de là, en fait, que j'ai réellement commencé à m'intéresser à ce qu'est l'entrepreneuriat. Sauf que je ne savais pas ce que je voulais faire.
Merci, merci déjà pour tous ces partages et même la conclusion. Je t'écoutais très attentivement pendant le récit de ces quelques années que tu as eu en France en 2012 et 2017 avec l'issue pas forcément joyeuse, mais qui finalement fait que tu rencontres ta femme et de là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, on va en parler également. Mais je me disais à quel point, en fait, l'histoire que tu racontes, c'est pas uniquement la tienne, mais c'est probablement celle de beaucoup de gens qui peuvent parfois se trouver dans des situations plus ou moins similaire, plus ou moins compliqué. Tu l'évoquais, tu étais dans une situation compliquée, mais il y a pire, il y a toujours pire, il y a toujours mieux.
Il y a toujours pire.
Voilà. Et ce qui est beau, c'est qu'au travers de ce récit, notamment par rapport aussi à la personne que tu es aujourd'hui, l'énergie que tu as aujourd'hui, les résultats que tu as aujourd'hui, et pour redonner le contexte, on se connaît aussi dans un cadre, on va dire, un petit peu plus personnel tout en étant professionnel. C'est un vrai message d'espoir que tu véhicules ici par rapport à ceux qui peut-être nous écoutent d'autres pays et qui rêvent de pouvoir lancer quelque chose et sortir d'une certaine situation ou s'élever dans la classe sociale, mais aussi ceux qui nous écoutent de n'importe où dans le monde et qui, de par les aléas de la vie, se sont retrouvés dans des situations plutôt inconfortables, complexes, où on se demande même parfois comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir. Et dans ton cas, bah, tu t'es posé les bonnes questions, tu as fait le choix aussi de te retrouver seul, même si certains auraient pu te tendre la main, mais finalement, ils t'ont rendu service comme tu l'évoquais. Une des questions que j'ai envie de te poser, outre la rencontre que tu vas faire du coup en 2017 avec ta femme lorsque tu es dans cette situation, tu te retrouves à la rue, mais dans la même année, tu découvres que tu peux faire finalement de l'argent par toi-même via... différemment grâce à l'entrepreneuriat ou autre, et comment tu arrives à te sortir de cette situation pour finalement te lancer à ton propre compte, parce que ça peut paraître presque, pas dire irréaliste, mais pour ceux qui peut-être sont dans cette situation, qui nous écoutent, qui l'ont été ou qui un jour peut-être, et je le souhaite pas, mais pourraient s'y retrouver, lorsqu'on est même pas à zéro, mais plus bas encore que zéro, ça peut paraître limite impossible, impensable, au point où même déjà certains qui ont une situation n'osent pas se lancer. Donc j'ose imaginer que dans ton cas, c'était pas forcément chose aisée. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Écoute, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et moi, j'aime la résumer par une chose très très simple. Je pense que le point le plus important, et c'est pour ça, alors je ne demande pas aux gens d'aller se mettre dans des situations compliquées et tout, parce que franchement, si c'était à refaire, franchement, je ne le referais pas, tu vois. C'est très difficile et le plus difficile, c'est de se retrouver seul. La solitude, c'est quelque chose qui est très dur, mais si on arrive à en sortir, ça nous rend vraiment très solide et très fort pour la suite et c'est ce qui va bâtir les fondations de votre mental, en fait. Moi, j'ai appris à me connaître dans la difficulté. Et j'ai appris à être à l'aise aussi avec ça. J'ai tendance à dire que je pense qu'il faut trouver son confort dans l'inconfort des autres. Là où les autres auront du mal, diront « Ok, ça brûle, ça pique, c'est froid, c'est chaud, enfin, j'ai pas envie d'aller là-bas. » Faut que vous vous dites « Ok, mais moi, je peux marcher dans le noir tout seul. Je peux être à l'aise, en fait. » Je peux rester ici, je me sens bien. Et en fait, il y a eu un effet assez bizarre, c'est que quand j'étais dans ma voiture, c'est qu'au début, franchement, je n'ai pas assumé, tu vois. Mentalement, c'était très dur. Mais au bout de quelques semaines, il y a eu un effet inverse. C'était assez bizarre, mais j'avais envie de me retrouver tout seul dans ma voiture, tranquille, parce qu'en fait, j'avais cette tranquillité, tu vois, de ne rien devoir à personne, d'être tout seul, face à toi-même, en fait, face à ta situation, à ta personne. Et du coup, à ce moment-là, ben, entre guillemets, tu te parles à toi-même. Donc, tu ne te parles pas forcément... on a souvent l'image, tu es du mec qui marche dans la rue et qui parle tout seul. Mais je me suis retrouvé à le faire, en fait. Je te le dis en tout été, je me suis retrouvé à le faire. Et en gros, à ce moment-là, ben, je me suis retrouvé à faire une rétrospective de ma vie. Et à voir à quel endroit, en fait, j'étais le plus heureux, à quel endroit je ne l'étais pas, qu'est-ce que j'ai fait qui, je pensais, pourrait m'apporter des choses dans la vie, mais au final, m'ont plutôt desservi qu'apporté. Et du coup, naturellement, en fait, avant même que je remonte la pente, j'ai compris que, pour moi, travailler dans un bureau, travailler pour quelqu'un, ce n'était pas pour moi. Je l'avais déjà compris, en fait. Ce qui fait que quand j'ai remonté la pente, et que j'ai continué à travailler, hein. J'ai toujours été salarié au début, j'ai commencé à me restructurer. En fait, dans ma tête, j'avais un plan. J'avais un plan qui était très clair, c'était de quitter mon travail, de me lancer, sauf que je ne savais pas quoi, en fait. Et du coup, j'ai commencé, bah, naturellement, un peu comme tout le monde fait aujourd'hui, bah, à taper des trucs sur Google, quoi. Donc, j'ai commencé à taper comment gagner de l'argent. Donc, franchement, je te lis, hein, des phrases toutes bêtes, hein. Et du coup, bah, j'ai vu un peu de tout. Alors, j'ai vu du e-commerce, j'ai vu du trading, j'ai vu de l'immobilier, j'ai vu des trucs. Et après, je me suis dit, mais OK, l'immobilier, je vois que tout le monde me parle de ça, mais est-ce que c'est mon truc? Non, OK. Trading, ouais, machin, ouais, OK. E-commerce, ouais, pas mal. E-commerce, pas mal parce que effectivement, je suis dans l'informatique. Des sites internet, on en a conçu beaucoup de par mon expérience professionnelle. Naturellement, en fait, je me suis dirigé vers un truc où je n'avais pas forcément de notion dans le marketing, dans la vente, etc. Par contre, de par mon passé, quand j'étais plus jeune et que j'étais dans la rue, bah, je sais compter. Donc, on va dire que c'est le côté positif de cette expérience-là. Et je sais utiliser un ordinateur. Donc, naturellement, en fait, je me suis dirigé vers ça. Donc, je n'avais pas de plan, en fait. Et en fait, c'est de fil en aiguille. Et c'est de là où s'est créée l'association avec ma femme, c'est qu'elle, en fait, elle avait déjà, une année avant, lancé un projet qui s'appelle Fit Body Curve. Donc, qui était au stade de zéro. En gros, c'était des gaines amincissantes. Elle a un compte Instagram. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que c'est une grande perdante. Elle a perdu plus de 40 kilos. Et du coup, elle a porté, en fait, ces produits-là pendant sa perte de poids. Et du coup, bah, c'est constitué une petite base. Donc, une petite communauté, elle avait 3 ou 4 000 followers à l'époque. Et du coup, bah, elle avait un side business, on va dire, où elle vendait des gaines comme ça, et ça a commencé à fonctionner. Donc, moi, je commençais à faire, on va dire, mes petits trucs, mes petits sites e-commerce. Moi, j'ai fait un peu de tout, hein. J'ai fait un peu de dropshipping. Donc, c'était vraiment, tu vois, 2018, 2017, 2018, c'était l'époque phare du dropshipping. Par contre, je n'avais pas de moyens pour me payer une formation, donc j'ai vraiment tout fait en autodidacte. Pendant au moins 9 mois, je ne gagnais pas d'argent. Et ma première vente, je l'ai eue à peu près 9 mois plus tard. Et en fait, ça, c'est venu naturellement, c'est en discutant avec elle, parce qu'elle, elle n'était pas du tout business, elle n'avait pas envie en fait. Elle me dit « Ouais, mais moi j'avais un truc, ça s'appelait Fit Body Curve, je vendais des gaines et tout. » Et je lui dis « Ah ok, d'accord, et c'était quoi ton truc ?» Et elle me dit, et c'est là qu'elle me dit « Bah en fait, elle faisait entre 1500 et 2000 euros par mois en plus de son salaire. » Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « 2000 euros par mois ?» Mais à ce moment-là, il faut savoir, j'étais encore à mon travail, je gagnais 1006, 1007, enfin, je ne gagnais pas grand-chose. Donc pour moi, en fait, je me dis, un side business qui me rapporte plus que mon travail à temps plein, je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, comment tu ne m'as pas parlé de ça ? Et elle me dit, ouais, mais ça ne m'intéressait pas trop. Et là, on s'est regardé et c'est comme si, en fait, on a compris ce qu'on devait faire. C'est qu'on s'est dit qu'on va joindre les deux mondes. Donc moi, en fait, j'ai ramené la partie digitale. Et elle a ramené le concept. Et c'est de là qu'on a créé, qu'on a complètement recréé la marque. On a créé un logo parce qu'il n'y avait même pas de logo, Alec. Tu vois, il n'y avait même pas de logo, il n'y avait rien. C'était vraiment, les gens, ils lui envoyaient un DM sur Insta, apprenaient l'adresse, apprenaient la taille et on allait livrer. Donc au début, on n'a pas voulu chambouler le truc. On a voulu reprendre ce qu'elle faisait déjà. Donc moi, j'avais besoin de comprendre comment elle fonctionnait. Donc ma femme et moi, en fait, au début, on prenait notre voiture le week-end, il y avait notre première fille dans la voiture, et on traversait toute l'île de France et on allait donner des produits à des gens comme ça. Donc on l'a fait un week-end, deux week-ends, trois week-ends, ça commençait à rapporter un peu de sous. Et à un moment donné, je commençais à lâcher ce que j'avais commencé. Et là, elle me dit « Ouais, mais t'as arrêté de faire ton truc et tout, pourquoi tu le fais pas et tout ?» Et là, je lui dis « Ouais, effectivement, t'as raison. » Et c'est à ce moment-là, on a eu un deuxième déclic. On s'est dit, mais pourquoi on ne lance pas un site internet, en fait, pour cette marque ? Pourquoi on ne fait pas comme tout le monde ? Et là, j'ai dit, bah ouais, bah vas-y, ok. Et c'est de là qu'en fait, on a créé la plateforme e-commerce, donc le site internet de Fit Body Curve. Et c'est là où, officiellement, sur les réseaux sociaux, est née la marque. Et c'est de là que tout a démarré. Et là, on a vu la puissance du e-commerce, la puissance d'internet, tout ce qu'on pouvait faire avec une marque. Et là, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas pris 9 mois en fait, pour que ça décolle. C'est dès le premier jour de l'ouverture, on a fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Ça a tout de suite explosé. Et de fil en aiguille, après, on a développé le projet comme ça. Donc, c'est comme ça en fait, qu'on s'est lancé, clairement.
D'accord. C'est intéressant parce que finalement, au départ, tu n'as pas forcément d'expérience pure sur le e-commerce ou autre. Mais de par l'action, tu vois, le fait de passer à l'action, encore une fois, de ne pas te poser de questions, d'oser, d'itérer différemment jusqu'à ce que cela fonctionne, et puis aussi de brainstormer, d'échanger et créer de la complémentarité entre vos deux profils, le tien et celui de ta femme, elle avec le concept, toi avec justement la partie digitale, fait qu'on en arrive à ça. Au départ, donc dès le premier mois, dès le lancement, ça cartonne. Ça fait des beaux résultats directement. D'où venait justement ce trafic? Alors, si j'en suis, l'histoire que tu viens de nous raconter, elle avait constitué une audience sur ses propres réseaux qui fait que les gens avaient un lien de confiance avec elle et donc, lorsqu'elle a lancé, c'est limite, ils attendaient le site. Et ensuite, comment s'est passé? Vous avez fait appel à des influenceurs, vous avez commencé à développer différemment avec de la publicité. Ça, c'est ma première des questions. Et ma deuxième des questions, justement, parce qu'il y a un point très, très intéressant, c'est que tu le disais au départ, c'est des gaines. Donc, des gaines, j'imagine, gaines amincissantes, comme on peut en connaître
des
en
corsets,
bois.
Ouais.
Voilà, des corsets. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout uniquement dans ce domaine. Vous êtes parti vers le domaine des compléments alimentaires. Qu'est-ce qui a motivé la décision de rediriger l'orientation de Fit Body Curve vers les compléments alimentaires? Donc, j'ai deux questions en une. C'est un mauvais exemple d'en faire deux en une, mais elles sont importantes.
Écoute, en gros, alors déjà, comment on a appris tout ça? Comme je te dis, nous, on n'a pris aucune formation. Par contre, je pense qu'il y a... J'ai dû regarder tout YouTube. Mais tout YouTube. Tout le YouTube anglophone, tout le YouTube francophone, ce qui fait qu'en fait, j'avais engendré tellement d'informations Et ça, c'est un message que je veux faire passer aux jeunes. C'est que, comme tu l'as dit, le travail, moi, je crois au travail. Je crois au travail et je crois au travail beaucoup plus que le talent. Le talent, c'est bien, mais le talent, moi, j'en ai pas, tu vois. Je suis un exemple, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas de skills, j'ai pas de trucs que je sais faire plus qu'un autre, tu vois. Le seul truc que j'aime bien, c'est que je sais utiliser un ordinateur. Donc forcément, j'étais à l'aise, tu vois, à rester sur mon ordinateur pendant 12 heures à naviguer sur Internet et à m'informer, tu vois. Ça, j'étais à l'aise, tu vois. Mais tout ce que j'ai regardé, je savais pas le faire. C'est pas un truc où je savais pas te faire une offre marketing. J'y connaissais rien dans ça. Par contre, je pense qu'on peut tout apprendre, tu vois. Je pense qu'on peut tout apprendre. Et à force d'entendre les mêmes choses, bah, à un moment donné, ça devient naturel. Donc nous, c'est comme ça, en fait, qu'on a fait au début. Et de fil en aiguille, au niveau de la stratégie, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en avait pas, en fait. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de stratégie. Le seul truc qu'on faisait, alors elle avait pas une grosse audience, elle avait 5 ou 6 000 followers. Par contre, base assez engagée. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé le projet. Allié pour beaucoup hein, aujourd'hui hein, sur le succès de ce projet parce qu'elle a apporté la preuve sociale en fait. Elle a apporté en fait une image de marque, c'est-à-dire derrière Fit Body Curve, aujourd'hui il y a un nom, il y a une personne. Moi, aujourd'hui, les gens savent que je suis là parce que j'ai commencé à le mettre en lumière il y a à peine un an et demi. Mais de base, je suis la zone d'ombre, en fait. Je suis les petites mains, tu vois. Mmh. Et elle, c'est la mascotte. Donc, le plan, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de plan. Clairement, je ne vais pas dire qu'on travaillait à l'arrache, mais je veux dire qu'on a beaucoup appris de mois en mois, quoi. Donc, on ne faisait pas appel à des influenceurs parce qu'on ne faisait pas assez d'argent, on ne faisait pas assez de marge. Donc, on faisait du chiffre d'affaires, mais on ne faisait pas assez de marge. On n'a jamais fait de dropshipping. Par exemple, on a toujours fait du stock. Donc, je peux te dire qu'à un moment donné, on vivait dans un appart de 60 mètres carrés. Fallait voir à quoi ressemblait le salon. Tu vois, il y avait des cartons partout, il y avait du stock partout. Et à un moment donné, nos journées, nos soirées, c'était que ça. Sauf que au début, elle travaillait encore. Elle travaillait encore parce qu'elle avait ce truc en tête de se dire, elle n'avait pas cette fibre naturelle que j'ai pu avoir de me dire, il faut que j'entreprenne. Elle se disait, je le fais pour le fun et on voit quoi. Mais elle le faisait plus pour moi que pour elle. Et ce qui était marrant, c'est que c'est elle qui a historiquement créé et lancé, fondé Fit Body Curve, mais elle l'avait laissé de côté. Et du coup, de fil en aiguille, c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'est ce qu'elle devait faire de sa vie. Et de fil en aiguille, en fait, on n'avait pas de plan. On essayait déjà d'optimiser et de structurer les coûts. Niveau logistique, niveau produit, au fur et à mesure, on commençait à avoir des meilleurs fournisseurs. Alors, il faut savoir, on se fournissait en Chine, hein, mais c'était vraiment d'une bonne qualité. Mais là où on était bon, c'était sur la relation qu'on pouvait avoir avec notre clientèle. Et aujourd'hui, c'est une de nos grandes forces aujourd'hui. On a une récurrence client et on a une preuve sociale qui est vraiment excellente, tu vois, qui est au-dessus, je pense, que de celle de nos concurrents. Il y a d'autres choses où on est moins bon, mais sur ça, je pense qu'on est vraiment, c'est vraiment là-dessus qu'on fait la différence. Et en gros, la stratégie, elle s'est faite un peu, on a fait un peu ce que tout le monde fait, quoi. Donc, un bon site e-commerce, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bon site e-commerce il fonctionne? Il faut une bonne logistique, ils font des bons produits et il faut de la récurrence, tu vois. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé au fur et à mesure.
D'accord, je vois. Aujourd'hui, Ce site Fit Body Curve, cette marque, c'est plus de 100 000 clientes. C'est énorme, donc c'est devenu vraiment gros. On parlera après rapidement de chiffre d'affaires. Le tout en plus avec une équipe qui est relativement réduite par rapport au chiffre d'affaires qui est généré. Hein, 9 personnes, tu me disais, plus 2 associés, donc 11. Et à peu près 25 personnes avec les différents prestataires freelance avec lesquels vous travaillez pour dégager un chiffre d'affaires tel que vous faites, tel que vous projetez faire, c'est colossal. Il y a un point aussi, c'est que quand on lance une marque, notamment une marque e-commerce, notamment dans le domaine des compléments alimentaires, on se rend rapidement compte que le marché, il est, je n'ai pas envie d'utiliser le terme saturé, mais il est bien occupé.
Il est dense, ouais.
Il est très dense. Il est donc indispensable d'avoir une stratégie de développement, mais surtout de créer une unicité et réussir à identifier sa singularité au sein de ce marché. Tu parles souvent d'une approche différente avec Fit Body Curve. Qu'est-ce qui vous rend unique et qu'est-ce qui rend votre solution différente sur un marché tel que celui-ci?
Ok. Je vais déjà parler des gains. Qu'est-ce qui faisait que en 2018-2019, on arrivait à vendre nos gains différemment? Et qu'est-ce qu'il y avait de différent avec nos gains? Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les gains amincissantes, les corsets, c'est un produit qui cartonnait et qui avait beaucoup de sites qui ouvraient du jour au lendemain pour faire ce produit, notamment des dropshippers, mais des marques, tu vois, des marques bien, bien posées, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être une dizaine, mais c'est quand même beaucoup, tu vois, sachant que la plupart de la clientèle en France, elle est en Ile-de-France, en gros, on se croise, tu vois. Nous, notre vocation avec la fondatrice, c'était de pouvoir que les gens puissent accéder à ce genre de produit, mais à un coût réduit. Nos concurrents à cette époque, ils vendaient deux fois plus cher que nous. Donc, ils se positionnaient autour des 60-70 euros, là où nous, on vendait entre 25 et 35 euros maximum. Qui fait que le retour client qu'on avait, c'était c'est pas cher et la qualité, elle est bonne. Du coup, on a envie de racheter. Donc, au fur et à mesure, on a commencé avec un produit, deux produits, trois produits. Qui fait que les gens, ils se sont habitués à se dire « Fit Body Curve, c'est bien, c'est pas cher, c'est de la qualité et c'est toujours au top. » Et on fait confiance du coup à la fondatrice. On a toujours mis en avant l'accessibilité au produit plus que la qualité du produit. Donc, valeur perçue, valeur reçue. Et la clientèle, il faut savoir que généralement, c'est des jeunes mamans, beaucoup mères au foyer. Et du coup, c'est aussi lié à l'histoire de la fondatrice qui, avant de me rencontrer, s'était retrouvée dans cette situation-là, a eu beaucoup de difficultés, saurait le raconter mieux que moi. Et du coup, en fait, elle s'est mise à la place de ces gens-là, de toutes ces femmes qui justement, ont besoin de ces produits-là, qui sont souvent, elles, dans cette situation-là. Donc, on s'est dit... Nous, notre stratégie, c'était de faire beaucoup moins de marge, mais plus de volume. Donc, du coup, on a complètement cassé le prix. On n'a pas suivi le marché au niveau du prix et ça a été bénéfique pour nous, du coup. Au niveau des compléments alimentaires, la bascule, pour répondre à ta question de tout à l'heure, la bascule, elle s'est faite pendant le Covid. Pendant le Covid, en gros, faut savoir, nous, en tant qu'e-commerçants, forcément, on est dans la niche de la minceur et du bien-être. Donc, c'est une niche, pour ceux qui savent, qui est une des niches les plus performantes hein, en termes de vente en ligne. Et naturellement, le Covid a poussé le business vers le haut. Donc, il nous a beaucoup aidé. Le volume d'affaires, je crois qu'on a augmenté de 25% dès le premier mois, sans faire plus d'efforts. Donc, l'acquisition, on va dire, on dépensait moins. Et on avait plus de clients quand même derrière parce qu'on chopait toute la base. Du coup, en fait, on a réussi à dégager plus de chiffres. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, en fait, nous, tous les 6 mois, on a tendance à demander aux gens qu'est-ce qui les intéresse. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on a suivi une vague, on a reçu, pardon, une vague d'avis où les gens, ils nous demandaient du thé. Ils nous demandaient des shakers, ils nous demandaient des gummies, ils nous demandaient des compléments alimentaires. Et là, j'en ai parlé à ma femme, parce que c'est aujourd'hui dans la structure, il faut savoir, c'est elle qui choisit les produits. Moi, j'interviens plus sur une autre partie. Et du coup, elle m'a dit, effectivement, les compléments alimentaires, c'est lié à la perte de poids, c'est cool, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Et je lui dis, comment ça ne marche pas? Elle me dit, le problème, c'est que c'est un effet placebo, quoi. En gros, tu as des trucs en gros, qui vont t'envoyer uriner, tu as des trucs qui vont t'envoyer à la selle, mais en gros, il ne va rien se passer de concret. On ne peut pas dire que les gens vont perdre de poids avec des compléments alimentaires. Et là, moi, je l'écoute, je lui dis, ok, mais. Il y a forcément un truc qui marche, tu vois. Il y a des gens qui les vendent. Il y en a 4-3, enfin, des gros du marché qui font quelque chose. Elle me dit, ouais, je sais pas, mais j'ai entendu parler d'un truc. Et c'est là où je lui dis, ok, dis-moi. Elle me dit, j'ai entendu parler de gélules brésiliennes. Et je lui dis, c'est quoi ce truc, gélules brésiliennes? Elle me dit, en gros, c'est des compositions qui sont issues du Brésil. Il faut savoir que le Brésil, tout le monde le sait, hein, ils ont le culte du corps. Là-bas, à Noël, ils offrent à leurs enfants des chirurgies esthétiques et tout. Enfin, c'est assez marrant. Et du coup, je me suis dit, on va étudier un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Et du coup, on a rencontré une personne qui développait en fait le marché européen d'un distributeur de compléments alimentaires. Et on a testé le produit qu'elle nous a proposé, donc la formulation qu'elle nous a proposée. Et du coup, on est resté sur le cul, en fait. On s'est dit, là, je pense qu'on a trouvé un produit entre guillemets révolutionnaire. En gros, les pertes de poids que le produit proposait et le temps qu'il fallait pour que ça se passe, bah, on arrivait à résoudre ce problème de temps et d'efficacité, chose que les autres ne font pas. Du coup, on a inventé un concept et on s'est lancé dans les compléments alimentaires de cette manière, avec une cure extrêmement courte, une cure de 10 jours. Donc en gros, t'achetais pour 10 jours de cure. Et t'achetais à un prix très fort. Pourquoi ? Parce qu'on a pris le pari de se dire qu'on va proposer un produit rare, qui ne l'est pas en soi, hein, proposer un produit rare, très efficace, qui permettra aux gens de perdre de poids sans faire d'effort. Ce n'est pas un produit miracle, mais on le vend comme tel. Et du coup, on a nos premiers compléments alimentaires, c'était des cures de 10 jours, et on les vendait 100 euros. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans le monde de la boisson, des compléments alimentaires, enfin de tout ce qui tourne autour de la pharma, les marges sont très, très, très importantes. Donc, on tournait autour de 80-85% de marge brute sur le produit. Donc, on est passé de vendre des produits où on a énormément de retours, où on achète en Chine, où on doit payer de la douane, gérer du stock, ça prend de la place, etc., à vendre des cures qui ne prennent pas beaucoup de place, qu'on achète 5 fois moins cher et qu'on vend 4 fois plus cher que l'autre produit. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a cartonné direct. Ça a cartonné direct. On a fait une première vente, on était out of stock dès les 12 premières heures. On s'est dit, ok, on attend les premiers retours. Et là, on s'est fait, mais... Enfin, il s'est passé un truc de fou. On est passé de 0 à 100, quoi, mais de manière complètement instantanée et on ne l'avait pas prévu. Du coup, on a refait une vente, on a doublé le stock, c'est parti en 6 heures. Donc, on a vendu deux fois plus en deux fois moins de temps. Et là, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on prenne une décision importante pour la marque. Là, il y a une opportunité de marché. Et c'est de là qu'en fait, on s'est concentré du coup après sur le développement des compléments alimentaires. Alors, de plusieurs manières. Hein. Nous, aujourd'hui, on propose du thé, on propose des boissons sous forme de stick, on propose des gélules et on va proposer plein d'autres choses aussi cette année qui vont arriver. Donc, différentes posologies pour plaire à tout le monde, mais toujours dans la même niche, la minceur. Et notre objectif, c'est proposer quelque chose qui ne chamboule pas les gens. Donc la révolution, c'est là où on l'a fait. C'est que nous, en fait, on a posé un concept de cours extrêmement courtes. Donc au début, on vendait des cures de 10 jours. Mais il y a des gens qui disaient, écoute, 100 euros 10 gélules, c'est 10 euros par jour quoi, que je dépense chez toi tu vois, pour une cure. Il faut que je sois sûr que ça marche. Donc, on avait des gens, tu vois, qui revenaient et qui disaient « Ouais, mais ça marche. » Donc, du coup, ils se disaient « Ok, j'achète, mais ça reste cher, tu vois. Comment faire ?» Bah, du coup, on s'est dit « Bon, on va faire encore pire. On va faire une cure de 5 jours. » Et on a fait une cure de 5 jours. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ça a fonctionné. Et on proposait la cure de 5 jours, non pas à 50 euros, mais à 60 euros. Et du coup, bah, on a augmenté, en fait, encore plus le volume d'affaires. Et c'est comme ça, après, que la structure s'est développée. Il faut savoir, à cette époque, avant les compléments alimentaires, en 2019, fin 2019, début 2020, on était entre 45 et 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. On est en France, donc voilà. Et on est passé, 3 mois plus tard, à entre 100 et 150 000, mais avec des marges beaucoup plus importantes. Et on vendait un seul produit à ce moment-là, c'était les fameuses gélules dont je t'ai parlé.
Tu mets en point et en lumière deux points extrêmement intéressants que j'ai envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'importance du product market fit et de savoir se remettre en question lorsqu'on l'identifie. Là, directement, vous vous dites « Ok, il y a un créneau, il y a un marché, il faut qu'on le saisisse et on y va à fond. » Et je pense que ça a été une vraie décision stratégique et une bonne décision. D'ailleurs, la suite l'a démontré. Et le deuxième point, peut-être le plus important, c'est que les gens mettent de l'importance non pas sur le prix, mais sur la valeur. Tu as évoqué d'ailleurs ce concept tout à l'heure. Et typiquement, les gens sont prêts à payer plus cher pour l'atteindre d'un objectif plus rapidement. Et tu le démontres avec ces fameuses cures de 5 jours ou de 10 jours qui viennent casser un petit peu, j'ai envie de dire, les codes du marché des compléments alimentaires minceurs. Ouais.
Complètement. En fait, on a fait le constat, et c'est vrai que là, je te le résume de manière très courte, mais il y a eu beaucoup de travaux de réflexion, de se dire, on a essayé, et on essaye encore aujourd'hui, de se mettre à la place des gens qui consomment ce genre de produits, tu vois. Par exemple, on avait fait pour les gaines amincissantes, on avait remarqué que la plupart vendaient à un prix, donc on s'est dit, on va vendre moins cher. Deuxième élément, on avait remarqué que les gens, ils s'arrêtaient à une certaine taille. Donc en gros, 2XL, 3XL, au-dessus, il n'y avait pas quelqu'un qui fait du 4 ou 5XL, il ne pouvait pas avoir ce produit-là. Alors effectivement, quelqu'un qui fait du 4, 5, 6XL, c'est pas d'une gaine dont il a besoin, c'est d'un rééquilibrage alimentaire. Mais pourquoi pas lui proposer, en fait? En soi, c'est du business, tu vois. Il faut pouvoir proposer à ces personnes des produits. Il faut pouvoir leur proposer quelque chose. Donc nous, on a proposé des produits allant jusqu'au 6XL. On était quasiment les seuls à le faire. Est-ce que c'était une bonne décision? Non, en soi, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne décision. Mais pour l'image, ça a été une très bonne décision. En fait, l'image qu'on a eue aujourd'hui et qu'on a, c'est Fit Body Curve. En fait, c'est d'ailleurs, c'est le slogan de la marque, c'est « Chaque femme est unique ». Donc, en gros, c'est on fait pour tout le monde. Il n'y a pas de case, il n'y a pas de persona. Et aujourd'hui, nous, notre product market fit, comme tu l'as cité, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, tu vois. C'est pas la personne au corps parfait qui va à la salle. Non, nous, notre niche, c'est pas notre clientèle, c'est pas des sportifs. C'est pas du tout des sportifs. Notre clientèle, c'est à la fois l'entrepreneur qui va à la salle de sport assez régulièrement, qui a une activité bien construite, comme ça peut être l'ouvrier, comme ça peut être la femme au foyer, comme ça peut être la directrice d'école. En fait, le product market fit, c'est le peuple. Et du coup, on s'est demandé comment le peuple réfléchit. C'est quoi le problème du peuple avec son alimentation? Le problème du peuple, c'est qu'il n'a pas envie de s'engager. Il n'a pas envie de s'engager dans... Il n'a pas envie d'aller à la salle pendant 6 mois. Globalement, les gens n'ont pas envie de le faire. On connaît tous le retour à la salle le lundi, et le lundi, ça fait un an qu'on l'attend, tu vois. Les cures de compléments alimentaires, ça dure 30 jours. 30 jours, des fois 60 jours, tu vois. Comment tu veux prouver qu'il s'est passé quelque chose au bout de 30 jours? Je pense que quand tu prends une cure pendant 30 jours, en fait, la cure, elle n'agit pas pendant 30 jours. Et ça, on l'a remarqué. Et d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé. Faut savoir que dans les compléments alimentaires, le corps, il reçoit les effets de ce qu'il ingère pendant 7 à 10 jours. Au-dessus, après, c'est du placebo. Au-dessus, c'est juste vous, mentalement, comme vous voyez qu'il s'est passé quelque chose d'assez cool sur votre corps et sur la balance, bah, vous allez avoir un comportement qui va être lié à ça. Du coup, vous allez manger mieux, vous allez peut-être faire un peu plus de sport, vous allez faire attention. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a un résultat et du coup, vous avez envie que ça continue. Et du coup, on s'est dit, mais ça sert à rien de vendre 30 jours. Ça sert à rien d'engager les gens aussi longtemps. Il faut qu'on puisse leur apporter une solution, on va dire, de facilité. Il faut qu'on puisse leur dire, OK, les gars, vous avez pas, on ne vous demande pas d'aller à la salle, on ne vous demande pas de manger mieux, on va vous aider. Donc nous, en dehors de la durée de la cure, là où on est bon, c'est sur le coupe-faim. Vous savez, le marché des coupe-faim, c'est un marché qui est énorme aujourd'hui. Et on le dit très honnêtement, on pense et on en est sûr, on a le meilleur coupe-faim du marché. On ne connaît pas une marque aujourd'hui qui a un produit aussi performant que le nôtre en termes de résultats, en termes d'efficacité, sur un laps de temps de 5 à 10 jours. Et c'est ça qui a fait notre réputation aujourd'hui. On a des personnes qui, en 5 à 6 cures, ont perdu entre 25 et 30 kilos. Mmh. On a des témoignages extraordinaires. On a changé la vie de beaucoup de personnes, de femmes. Il faut savoir, 90% de nos clientèles est féminine. Mais aujourd'hui, on commence à aller chercher les hommes aussi. Parce que pour un homme, c'est encore... alors, je ne vais pas dire que c'est plus ou moins difficile, mais c'est une autre façon d'appréhender les choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux sociaux, un monde rempli de validation, de survalidation, qui fait que forcément, les gens, ils ont besoin de se sentir bien, en fait, quand ils se regardent le matin. Et nous, on apporte des solutions faciles. On ne leur demande pas de manger mieux. On ne leur demande pas de faire ci, de faire ça. Alors aujourd'hui, on fait un travail d'éducation. On ramène du e-book, on ramène du conseil, etc. Mais on n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils veulent, à faire ce qu'ils ont à faire. On leur conseille, on leur dit, écoutez, on va vous aider. Prenez ce truc-là, ça va vous permettre... De tenir votre objectif un petit peu mieux et vous verrez après si vous voulez tester d'autres choses chez nous ou pas d'ailleurs. Parce qu'on, donc voilà, C'est l'idée, en fait, de la marque aujourd'hui.
Je vois, très clair. Et justement, à partir de ce moment-là, de ce repositionnement, ces décisions stratégiques et ces nouveaux produits qui trouvent leur marché, les choses se sont accélérées. Tu m'évoquais tout à l'heure en off les chiffres, l'évolution des chiffres, les prévisions aussi. Avec plaisir pour les évoquer de façon à ce que celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte aussi du marché auquel vous adressez aujourd'hui. Mais au-delà même des chiffres qui peuvent être intéressants, et c'est certain, ça donne du contexte, mais c'est la rapidité à laquelle ça croît année après année jusqu'à aujourd'hui et même les prévisions de cette année. Et surtout, lorsqu'on est en hypercroissance, parce que dans votre cas, on peut parler d'hypercroissance, eh bien, comment vous avez vécu cette hypercroissance, comment vous vous êtes staffé par rapport à cette hypercroissance, quels sont les challenges auxquels vous avez fait face que peut-être vous n'auriez pas anticipé, parce que finalement, pour l'un comme pour l'autre, eh bien, c'est votre première aventure entrepreneuriale, et pas des moindres, une belle aventure entrepreneuriale avec ce type de résultats, et bravo pour ça. Ça peut être intéressant de donner du contexte à tous ces éléments.
Écoute, c'est vrai que on a tendance, tu sais, on a cette image, je pense que tu la connais, tu sais, de l'iceberg.
Complètement.
Avec, on voit la surface de l'iceberg et en bas, on voit tous les trucs, acharnement, travail, problème, etc. Franchement, nous, on est vraiment passé par là, sauf que, ça, comme tu dis, on est en hypercroissance, donc du coup, on a eu beaucoup de problèmes très vite, très tôt. Alors, on a eu des problèmes déjà d'assumer le rythme, la demande, répondre à la demande. Pour répondre à la demande, il faut avoir une logistique qui est carrée. Il faut que tu puisses tenir des délais avec des fournisseurs. Du coup, il faut que tu aies une gestion au niveau de ta trésor qui soit parfaite. Et ça, forcément, bah, nous, je ne vais pas dire qu'on débutait, mais nous, de base, ce n'est pas notre travail, quoi. Nous, notre travail, c'est de vendre en ligne. Et là, aujourd'hui, notre travail, ce n'est pas de vendre en ligne. On le vend en ligne, mais on fait un peu de distribution, etc. Mais nous, aujourd'hui, notre travail, c'est qu'on est dans les compléments alimentaires. On est dans l'industrie pharmaceutique et c'est un tout autre travail. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure que ça évoluait. On a compris aussi, alors on l'a bien accueilli, hein, forcément. Tu triples ton chiffre d'affaires en l'espace de 2 à 3 mois sans avoir fait plus d'efforts, en faisant beaucoup plus de marge. Donc forcément, les réactions au niveau de notre structure, elles étaient bonnes, sauf que on est tombé dans des pièges assez vite. Donc le premier piège qu'on est tombé, c'est qu'on a voulu grandir trop vite en termes de structure. On a voulu se détacher de beaucoup d'opérationnels sur lesquels il fallait qu'on garde la main parce qu'on n'avait pas la maîtrise. On pensait l'avoir, mais on ne l'avait pas. Et souvent, ça c'est un truc que je dis souvent, le chiffre d'affaires, les résultats qu'on peut avoir peuvent nous faire croire qu'on maîtrise quelque chose alors que ce n'est pas du tout lié, ce n'est pas toujours lié. Je pense qu'on a tendance à surestimer son talent, en fait. On sous-estime beaucoup de facteurs, dont la chance et le marché. Et moi, je crois aussi au fait qu'une personne, quand elle est derrière son téléphone et qu'elle te fait un Apple Pay pour payer sur ton site, tu n'as aucun contrôle, en fait, si elle veut le faire ou pas le faire, même si tu lui envoies un mail, un SMS ou toute autre technique. Si elle ne veut pas acheter, elle n'achète pas, tu vois. Enfin, toutes les personnes qui ont des sites e-commerce le savent aujourd'hui. Toutes les personnes qui ajoutent au panier et qui ne reviennent jamais, on ne comprend pas qui sont ces personnes. Mais ces personnes, c'est nous, en fait. C'est l'être humain. Il clique, il regarde, il n'a pas envie d'acheter, il ne sait même pas lui-même pourquoi. Donc, il y a tout ça, en fait. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas une totale maîtrise de tout ça. Et du coup, on a eu une année 2022 extraordinaire. En termes d'hypercroissance, savoir que entre 2021, on faisait un peu plus de 1 million de chiffre d'affaires. Donc, on avait un rythme vraiment, 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 vraiment très bon. C'était notre premier million. Du coup, on avait passé la barre. Et c'est là que tout a complètement accéléré. 2022, on a tapé la barre des 6 millions. C'était une année extraordinaire. Et en plus, c'est qu'on l'a fait avec un seul produit. 90% du chiffre d'affaires venait d'une seule et unique référence. Donc, les Brazilian Caps, c'est notre produit phare aujourd'hui. Et du coup, en 2022, on a eu cette hypercroissance. Ça a été hyper vite. Sauf que c'était, comment dire, c'était un peu trop facile, quoi. On dépensait, par mois en acquisition, on dépensait à peine 15 000 euros et on avait un retour entre 300 et 450 000 euros de chiffre d'affaires avec une récurrence client de 49% sur toute l'année. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste des chiffres qui sont complètement dingues. Je m'en suis rendu compte après, moi, en fait, en discutant avec des entrepreneurs. Et du coup, 2023, on s'est dit, OK, c'est quoi la suite, quoi ? Donc, on a continué à vouloir grandir niveau structure, niveau équipe. Et du coup, on s'est un peu brûlé les ailes parce qu'on a mis de côté quelque chose de très important. C'est que dans le monde de l'industrie pharmaceutique, des compléments alimentaires, c'est une industrie, en fait, qui est extrêmement régulée, extrêmement soumise à des contrôles, extrêmement soumise à des règles, des lois, de la législation qui change, qui n'est pas toujours propre à tous les pays. C'est-à-dire, en France, ça peut être ci, en Suisse, ça peut être autre chose, aux États-Unis, c'est autre chose, qui fait qu'on a eu des problématiques produits en 2023, précisément en juin, qui fait qu'on a un produit, en gros, bah, le produit phare, il a été retiré du marché. Aujourd'hui, on en parle, on est à l'aise, parce que c'est quelque chose qui est passé. Mais 2023 a été une année à la fois exceptionnelle, parce qu'on a quand même eu une belle performance, mais extrêmement difficile, parce que quand, en gros, tu as des inspecteurs douaniers qui débarquent dans tes locaux du jour au lendemain, ils arrivent à 4-5 avec des brassards, qu'ils inspectent toute ta marchandise, bah, nous, on est confiants, on a tous les papiers, enfin, on a tout ce qu'il faut et tout, on est OK. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'on aurait pu éviter si on avait suivi certaines étapes. En gros, pour résumer, ils ont retiré, du coup, suite à une analyse en laboratoire, le produit du marché, non pas parce qu'il était illégal ou qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon dedans ou une substance ou quelque chose. C'est juste qu'en fait, il y avait une plante dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait une plante qui était considérée comme médicament, donc médicinal, qui fait que mon complément alimentaire n'en était pas un. Mon complément alimentaire était un médicament. Et un médicament, c'est soumis à ordonnance, juste avec un composant. Un composant sur 13 composants qui font la formulation. Donc, tout a été rejoué. Parce que du jour au lendemain, en fait, on a eu une interdiction de vente sur ce produit. Et l'erreur qu'on a faite en 2022, c'est que ça marchait tellement bien qu'on a poussé toute l'énergie, on l'a mis sur un seul canal, donc ce produit-là. Mais on n'a pas pris assez le temps de développer, on va dire, à côté, l'élargissement de la gamme. Et ben, en fait, l'élargissement de la gamme, il s'est fait qu'on a eu des problèmes. Et du coup, ben, il s'est fait à notre dépens. Donc, la force qu'on avait, c'est qu'on avait acquis beaucoup de trésorerie, on avait beaucoup de cash, on avait de quoi, en fait, on avait les reins solides, tu vois, pour assumer une telle perte. Il faut savoir que quand ils sont venus, ils sont partis avec l'équivalent de quasiment 300 000 euros de marchandises, pas de valeur marchande, donc quasiment 300 000 euros de marchandises qu'on avait achetées, tu vois, qu'on avait réinjectées. Donc, c'était clairement toute la marchandise à vendre pour au moins 4 à 5 mois, tu vois. Donc c'est énormément de chiffres qui s'envolent du jour au lendemain et derrière interdiction de vendre, donc forcément ils sont hyper à cheval sur ça, ils te contrôlent, du coup bah, nous on a dû trouver des solutions très rapidement. Et forcément quand tu passes de la phase du dur, du début de ta boîte où tu dois où c'est compliqué au début, il n'y a pas assez d'argent qui rentre, à une phase d'ascension extrême à notre échelle, en tout cas. Je ne dis pas que c'est mieux qu'un autre, mais à notre échelle, c'est beaucoup, quoi. Faire autant de chiffres d'affaires par mois, je te dis, à un moment donné, je me réveillais le matin, à ce moment-là, je me réveillais le matin, là, en 2022, et à 7h, 8h du matin, j'étais déjà à 5 000, 6 000 euros, quoi. Donc, limite, tu tombes dans le piège, tu te dis, tu fais quoi ? Tu restes couché ou, c'est nouveau pour nous, tu vois, comme je le disais au début du podcast. Il y a quelques années, j'étais dans ma voiture, quoi. Et là, je me retrouve à générer par mois des sommes astronomiques. Donc, ça a été compliqué de se dire que la lumière s'éteint, mais qu'on a quand même des solutions, tu vois. Donc, du mois de juin 2023 à novembre à peu près, 2023, ça a été des mois très compliqués en termes de gestion parce que du coup, on a dû retravailler comme si la boîte venait d'être créée. Pourquoi ? Parce qu'on nous a supprimé des produits, qui fait que on était parti sur un début d'année extrêmement prometteur et on a fait six derniers mois beaucoup plus difficile parce que forcément, à un moment donné, le chiffre d'affaires commençait à baisser. On a voulu tester différents produits, ça ne convenait pas aux clients. Tu sais, les clients aussi, on a appris ça, on l'a appris à nos dépens. Les gens ont tendance à juger qu'un produit est bon ou pas bon en se basant sur ce qu'ils ont déjà goûté. Par exemple, je sais pas, t'aimes bien le Coca-Cola, on va te donner un Pepsi, tu vas dire « moi, j'aime pas le Pepsi ». Pourquoi ? Parce que tu préfères le Coca. C'est pas parce que c'est moins bon ou moins bon, c'est parce que t'as une base de référence, tu vois. Eux, la base de référence, c'est le produit qu'on leur a retiré. Mmh. C'est un produit où tu perdais 3-4 kilos en 10 jours, tu vois, des trucs extraordinaires. Et on leur propose du coup un produit au même prix, on essaie de rester sur la stratégie, mais ça passe pas. Donc, on propose un autre produit. Forcément, proposer un produit, c'est de la R&D, c'est des sous, c'est de l'attente, c'est de la production. C'est beaucoup de choses mis bout à bout qui fait qu'à un moment donné, les mois, ils passent. À un moment donné, il n'y a pas d'argent qui rentre. À un moment donné, ta structure, elle te coûte cher. À un moment donné, non seulement tu gagnes moins d'argent, mais tu travailles beaucoup plus. Ce qui fait qu'on a perdu une partie de l'équipe. Ça, c'est un truc aussi qu'on a subi. On a subi des problèmes de structure avec les salariés. Derrière, forcément, tu sais, c'est la loi des suites. On a eu des problèmes avec les douaniers. On a eu après des problèmes avec la DGCCRF. On a eu après des problèmes avec la DDPP, la protection des consommateurs. On a eu des problèmes avec la fiscalité. On a eu des contrôles fiscaux. Alors, tout s'est enchaîné en 2023. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en est ressorti grandi. Et on en est ressorti avec une mise à jour de notre produit phare qui aujourd'hui est revenu sur le marché il y a à peine un mois et qui va nous permettre en fait de reprendre l'hypercroissance qu'on avait commencé. Il faut savoir qu'on a une clientèle qui est quand même compréhensive là-dessus. Nous, notre force, c'est qu'on communique avec notre clientèle et qu'on s'est dit il faut qu'on trouve un moyen de leur fournir ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et on n'avait pas envie de tomber dans le piège de dire « écoute, on ne peut pas faire ça, on fera autre chose et ils vont s'adapter ». On s'est dit « non, aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter à notre clientèle ». Tu vois, on a eu plus de 100 000 clientes différentes. Aujourd'hui, on a une base de données, de personnes inscrites dans notre base qui est assez importante. On a des gens qui achètent, on a des gens qui consomment nos produits régulièrement sans regarder, sans se poser de questions. Quand on met un produit, les gens, ils nous font confiance. Ils font confiance à la fondatrice. Et on est aussi sur une thématique où on aide les gens. On apporte une solution sociale à quelque chose qui est la santé et la perte de poids. Quand tu as des clients qui t'envoient un message et qui te disent « Écoutez, ça fait des années que j'essaie de perdre un kilo et que je n'y arrive pas et que là, en 5 jours, j'en ai perdu 3 », tu te sens redevable en fait. Tu te sens… on se sent investi d'une mission et qu'on s'est dit « Il faut absolument… » On trouve la solution. Et on les a trouvés. On les a trouvés. Et du coup, l'année 2023 était une année extrêmement dure en apprentissage, mais extrêmement importante pour la vie de la boîte. Et ce qui fait que cette année, en 2024, on vise les 10 millions de chiffres d'affaires. Alors, c'est une projection, c'est un souhait, mais c'est quelque chose qui est normalement réalisable au vu de ce qu'on a maintenant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas qu'un produit, on en a 8. On a une gamme de thé complète, on a des boissons, on a deux types de compléments alimentaires, donc des gélules. On a remis aussi à jour complètement la gamme de gaine amincissante. On a un système de logistique qui est hyper bien rodé. On a beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises en place. On a de l'abonnement, on a une application, enfin… Les réseaux sociaux, ils se sont bien développés. Le compte de la fondatrice est passé au cours des années de 5 000 à 45 000 abonnés. Elle a un engagement qui est complètement dingue. On a le compte aussi de la marque qui a bien monté. Enfin, tout ça, tu vois, mis bout à bout. Enfin, le travail, comme je te disais tout à l'heure, le travail qui fait qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir aller chercher ces résultats.
Complètement. Merci pour ta transparence à l'égard des chiffres et de la situation. C'est extrêmement intéressant d'avoir conscience aussi de tous les challenges. T'évoquais ce fameux iceberg et on le voit de plus en plus dans les réseaux sociaux ou même dans le cadre de certains interviews, podcasts où on met en lumière l'ascension fulgurante de certaines personnes. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est voir les moments un peu plus compliqués parce que finalement, c'est ces moments qui sont les plus enrichissants et qui nous font le plus grandir. Un autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une belle équipe d'environ 25 personnes. On l'a décomposé tout à l'heure dans sa structure avec 9 salariés, 2 associés et quelques freelances avec lesquels vous travaillez. Tu abordes une notion intéressante, c'est faire la course à la compétence et non au recrutement. Quelle est cette philosophie et comment s'inscrit-elle dans votre stratégie de recrutement et de développement des compétences au sein même de l'entité pour accompagner la croissance, je dirais même l'hypercroissance que vous cherchez à atteindre et que vous avez vécu ces années?
Bah écoute, en fait, nous, on est dans un domaine où notre structure, elle est complètement digitalisée. Donc, on vend en ligne, tu vois. On vend en ligne. Donc, on a affaire à des nouvelles méthodes, une nouvelle manière de travailler que j'ai appris à connaître, on va dire, qui fait que au début, bah, on n'avait rien internalisé, qu'on faisait tout seul, tout nous-mêmes. On a délégué ce qui devait être délégué le plus vite, donc la logistique et toute la partie service client. Mais pour atteindre ces sommets-là et pour passer, rentrer dans la cour des grands, hein, j'appelle ça, on a besoin de compétences. Et de notre expérience en tout cas, alors c'est la nôtre. Le freelancing, c'est bien, mais si tu veux avoir un projet où les gens ils sont engagés avec toi, il faut qu'ils soient engagés avec toi et pas avec d'autres. Ça, c'est ma vision. Et c'est pour ça qu'on a dû faire appel à des compétences en interne. Déjà, parce que tu peux faire de l'économie d'échelle assez importante. Donc, structurellement et stratégiquement pour les finances de la boîte, c'est intéressant. Maintenant, là où ça a été difficile, c'est de se dire, il vaut mieux recruter une personne qui en vaut 3 plutôt que 3 personnes et du coup, on pense qu'on évolue parce qu'on est plus. Nous, on s'est rendu compte en 2023 et c'est souvent quand tu as des problèmes hein, que tu t'en rends compte, bah, que le nombre, ça fait pas grand-chose. Si sur une équipe de 15 personnes, t'en as 5 qui travaillent, bah t'en as 10 que tu payes qui te coûtent de l'argent, c'est une charge fixe, c'est lourd à assumer, et derrière, après, pour t'en débarrasser, c'est compliqué. Donc ça, on l'a subi aussi peut-être parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de souffler, on a besoin aussi de, entre guillemets, de moins travailler, de pouvoir avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Et on s'est rendu compte que, bah, que en fait, ça ne fonctionne pas, en fait. Il ne faut pas chercher à moins travailler, il faut chercher plutôt à plus travailler. Et pour plus travailler, il faut qu'il y ait des gens qui t'aident à travailler. Et c'est plutôt vers là qu'on court aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui vont nous aider à faire ce qu'on fait en mieux, non pas plutôt que des gens qui vont faire ce qu'on fait. Donc, je ne parle pas de l'opérationnel. En soi, moi, je ne suis pas au courant de... du post Instagram qui a été mis aujourd'hui, tu vois, sur le compte Instagram. Par contre, sur la stratégie et le développement de l'entreprise, je connais tous les rouages de la boîte et on va dire chacun son rôle. Mais aujourd'hui, on a besoin de talents, de personnes engagées qui ont une vision aussi. Ils ne viennent pas juste échanger leur temps contre de l'argent. Moi, mes collaborateurs, tu vois, je ne les appelle pas employés, je les appelle collaborateurs et c'est un truc que je leur dis. C'est que je les traite comme des entrepreneurs. Il est hors de question qu'ils viennent le matin et qu'ils se disent bah, « moi, je suis venu faire mes heures et je m'en vais ». Non, on a un objectif. Quand c'est un mois de Black Friday, moi, je leur donne les chiffres. Je leur dis « c'est tel chiffre qu'il faut atteindre et vous serez gratifiés ». On a un système aussi de rémunération qui est assez, assez sympa. On gratifie nos collaborateurs par rapport aux performances qu'ils dégagent sur la boîte. Si tu veux, Alec, je veux que chaque personne dans la structure puisse se dire « Ok, sur 100 000 euros, bah, moi j'ai 25, moi j'en ai 15, moi j'en ai 16, moi j'en ai 50. » Que les gens ils puissent visualiser où ils se trouvent dans la structure. Et ça, c'est un truc dans le monde du salaire. En tout cas, moi, quand j'étais salarié, bah, je ne le connaissais pas en fait. Et c'est un problème que j'avais. C'est un problème que j'avais dans les travails que j'avais avant. C'est que je ne me voyais pas en fait dans le résultat. Ils nous montraient des chiffres qui étaient en plus des fois extraordinaires. Et tu te dis, mais En fait, tu es juste un pion. Bah, chez Fitboy Curve, il n'y a pas de pion. Tout le monde a un rôle important. Tout le monde a un avis à donner. Le rédacteur, il peut très bien donner son avis sur le travail que le graphiste a fait. Et le graphiste, il peut très bien donner son avis sur ce que le Pôle SAV fait, lui, derrière. Donc, ouais, nous, on court derrière la compétence aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est important.
Ce qui est aussi clé dans ce que tu évoques, c'est la méritocratie et l'union. L'union qui fait la force et le fait que vous avancez tous vers un même objectif, vers une même vision, que vous en avez connaissance, et le fait que tu véhicules effectivement auprès de tes équipes de la transparence au niveau des chiffres, au niveau des objectifs, et qu'ils soient incentivés et qu'ils sentent qu'ils prennent part justement à l'atteinte de ceci, c'est capital et ça explique beaucoup de choses. Merci pour ces réponses, ces éléments à l'égard de la partie structurante de l'entité. Je sors complètement du cadre et du contexte des questions posées précédemment, mais c'est intéressant aussi de te la poser pour celles et ceux qui sont concernés, qui nous écoutent. C'est que travailler avec sa moitié peut être un vrai challenge, mais aussi une grande force dans votre cas, voire même une grande chance également. Comment est-ce que vous gérez l'équilibre entre votre vie de couple, votre vie personnelle et vos enjeux et vos rôles professionnels au sein même de Fitbody Curve, dans le sens où est-ce que vous avez instauré des règles, des habitudes pour préserver à la fois la relation et le développement de l'entreprise? Souvent, c'est des retours qu'on a et ça paraît complexe pour beaucoup. Dans votre cas, j'ai vraiment l'impression que cette complémentarité fait en grande partie votre force. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent d'avoir plus de clarté sur ce sujet.
Ouais, bah écoute, t'as dit un truc qui est intéressant, t'as dit que c'est une chance. Moi, je pense que oui, c'est véritablement une chance, et à condition qu'on accepte qui est l'autre. Donc, faut savoir que ma femme et moi, avant de partager des boîtes ensemble, parce qu'on a même d'autres activités maintenant qu'on a développées au fur et à mesure, en fait, on est juste deux personnes... Deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui sont en couple, quoi. On est un couple comme tout le monde. On est monsieur et madame tout le monde. Et on s'est rencontrés, on ne s'est pas dit en se revoyant, « Ok, on va lancer une boîte, t'inquiète, on va faire des millions ensemble. » Non, non, c'était très clair sur le fait qu'on voulait bien gagner notre vie, qu'on avait des objectifs différents de la moyenne. Donc ça, c'est pour ça que ça a matché. Par contre, ce n'est pas le pourquoi, la base de pourquoi on est ensemble. Donc, des règles, franchement, je ne vais pas dire qu'il y en a. Disons que, comment on gère on ramène on le fait moins maintenant, mais on ramène le perso au bureau et on ramène le bureau dans le perso. En gros, moi, j'ai 3 enfants, tu vois, qui sont une fille de 9 ans, une deuxième fille de 3 ans et une dernière de 9 mois, donc que des filles. Faut savoir que moi, ma femme, elle n'est pas femme au foyer, tu vois, elle travaille avec moi, elle travaille à temps plein avec moi. Donc, niveau règles, en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas mis de règles là-dessus. Bon, c'est juste organisé, donc forcément, on a une femme de ménage, on a une nounou, etc. Donc ça, déjà, ça nous permet, au niveau des enfants, de préserver un temps de qualité avec eux, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et c'est l'investissement à titre perso où je mets le plus de ressources, que ce soit financière ou de manière énergie, c'est sur l'éducation de mes enfants. Parce que moi, c'est quelque chose qui, dans mon passé, mes parents m'ont bien éduqué, mais ils ne m'ont pas éduqué comme j'aurais aimé l'être, en tout cas comme j'aurais aimé que mes enfants le soient. Et je ne leur en veux pas, parce que c'est lié à beaucoup de facteurs, mais aujourd'hui, moi, j'ai des informations... j'ai des choses que je sais et j'ai envie que mes enfants ils puissent les recevoir pour justement pas reproduire les erreurs que j'ai pu reproduire. Donc ça, c'est un truc qui est important pour nous. Et en gros, entre Ludie et moi, c'est assez marrant, mais on passe plus de temps à pas être d'accord qu'à être d'accord, en fait. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas ce qui nous empêche de prendre des mauvaises décisions. Là où on a grandi, et si je peux donner un petit conseil pour ceux qui travaillent en couple, c'est que des fois, il faut savoir faire posture basse sur ce que l'un ou l'autre peut penser. Moi, je pense que ma force, c'est de souvent lui donner raison, même quand je pense qu'elle a tort. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, même quand tu penses qu'elle a tort, elle peut avoir raison. Et bien, si elle a tort, on le verra. Et à ce moment-là, tu lui diras, écoute, tu as eu tort, donc maintenant, tu vas m'écouter. Et là, elle va sans doute t'écouter, vous allez faire un truc, et peut-être que là, c'est à ce moment-là, tu pensais toi avoir raison et toi t'auras tort, tu vois. Si tu veux, il n'y a pas de... On a remarqué qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Donc maintenant, on a appris en fait à s'écouter et à se dire, ok, faisons le truc le plus rationnel possible, le truc au niveau risque, gain, on reste sur un truc, comment dire, on n'est pas du style à mettre all-in, on va dire, tout le temps, tu vois. On met all-in en niveau énergie, mais le all-in niveau structure, niveau cash, etc., on le fait, mais on ne le fait pas comme beaucoup peuvent l'entendre, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a personne réellement sur Terre qui fait du all-in complet. C'est souvent matérialisé de cette manière, mais ça ne se passe jamais comme ça. Enfin, c'est débile, tu vois, de faire ça. Donc, non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas vraiment de règle. On va dire, il n'y a pas de moment où on se dit « Ah, là, on ne parle pas de boulot, on ne parle pas de perso. » On a essayé de le faire. Des fois, on est en vacances et tout, on est comme ça. On se dit « Ouais, là, on ne parle pas de boulot et tout, on se détend et tout. » Ouais, mais OK, on se détend. Tu reçois un mail, tu lui dis « Ah, tiens, regarde. » Après, en marchant, tu dis « Ah, putain, pas mal ce truc. Ah, mais on pourrait faire ci. » En fait, on est des entrepreneurs. Donc, on voit du business partout. Partout où je vais, je vois du business. Donc, on ne parle que de ça. On est entouré de personnes qui ne parlent que de ça. Qui fait qu'à un moment donné, ça fait partie de notre vie. Et on l'a accepté. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, c'était difficile. Je vais pas te mentir, c'était difficile. Travailler avec sa femme, c'est compliqué. Parce que quand tu as un problème à la maison... T'arrives au bureau, t'as les collabs, enfin, tu dois faire comme si de la tête. C'est pas facile, tu vois, de faire semblant. Des fois, t'as pas envie. Enfin, tu t'imagines, tu vois, des fois, t'as besoin de liberté, t'as besoin de ton confort, t'as besoin d'être un peu seul, quoi. Aujourd'hui, on arrive à le faire un peu plus, mais c'est vrai qu'on. Le gros truc, on va dire, on s'impose vraiment de respecter ça, c'est de s'écouter, quoi. Y a personne qui est meilleur qu'un autre, il y a personne qui a raison ou tort. C'est on essaie de faire si moi j'ai 5 idées qu'elle en a 5, bon, on va essayer de faire les 5 de chacun et on va pas dire ah bah non, ça on fait pas ça parce que c'est nul ou non, on essaie de tout faire. Voilà,
très clair. Merci pour ce partage. Encore une fois, j'ai deux dernières questions pour toi. En repensant à tout ce que tu as accompli jusqu'ici, les hauts, les bas, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence dans ton parcours? Qu'est-ce que tu dirais au travers de ces dernières années, aux entrepreneurs qui peut-être se trouvent des excuses par rapport à leurs ambitions, par rapport à leurs envies, et qui vont malheureusement soit procrastiner, voire même parfois éteindre leur potentiel, abandonner ou écouter ceux qui parfois, de manière bienveillante, veulent les raisonner, veulent les canaliser, et donc ne pas pouvoir exprimer leurs ambitions.
Déjà, de un, n'écoutez personne. Apprenez à vous connaître, écoutez votre voix intérieure. Moi, c'est quelque chose qui je crois beaucoup en mon instinct. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je retrace un petit peu ma vie, toutes les fois où j'ai fait des conneries, où je savais que ça allait mal se passer pour moi, j'en avais conscience en fait. Je me suis rendu compte que je le savais dans quoi je m'embarquais, tu vois. Et ben, dans le même sens, toutes les fois où j'ai réussi à accomplir quelque chose et que même si c'était dur, hein, tu vois, c'était dur. J'ai cru que ça allait pas se faire, ben en fait j'avais des éléments et au fond de moi surtout j'y croyais. Et je pense que quand on croit en quelque chose, c'est pas parce qu'on s'est levé un matin et qu'on rêve et qu'on se dit je pense que ce truc là il va marcher. Non, c'est que notre vie, notre expérience, ce qu'on a pu voir, entendre, apprendre, fait qu'on croit plus ou moins à des choses. Enfin, on met un niveau d'énergie qui est différent en fonction de ce qu'on fait. Et du coup, rien n'est fait par hasard. Donc, premier élément. Et deuxième élément, en fait, moi, je crois au travail. À un moment donné, j'entends trop souvent des gens qui abandonnent. Et quand tu regardes, ils se trouvent des excuses. Mais nous, on est l'exemple parfait qu'on peut faire n'importe quoi, tu vois. Je suis dans un domaine que je ne connaissais pas il y a un peu plus de 3 ans que je ne connaissais pas. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant... J'entreprenais pas, j'avais pas d'entreprise, j'avais rien. J'étais dans la merde, j'étais au fond du trou, tu vois. Et il y a 10 ans de ça, j'étais à l'autre bout du globe et je faisais tout autre chose, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions de, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours pire. Tu vois, nous, quand on a une situation qui est difficile, on réfléchit, on peut râler de temps en temps, dire « Ah, putain, c'est chiant. » Ok, c'est chiant. mais il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui, tu vois. Donc, nous, on a la dalle. Nous, on a faim. On se comporte comme si on n'avait rien. On se comporte comme si on n'avait rien. Quand je me lève le matin, j'ai une énergie de feu parce que je suis reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui. Et je me dis pas... aujourd'hui, on ne court pas derrière l'argent, en fait. On court derrière un objectif. On court derrière un accomplissement et on se dit, on veut aller au bout de, ce qu'on, de nos idées. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, Alec. Hein. Parce que des idées, on en a plein, on en a tout le temps. Ne serait-ce que pour la marque, enfin des produits, des idées de produits, on en a mais des dizaines, tu vois. Et je me dis, bah, tant que j'aurai l'énergie, je le ferai, tu vois. Je n'ai pas envie, moi, de vendre ma boîte. J'ai pas envie de... Là, ce n'est pas dans ma tête. Ma tête, c'est de tout péter. Ma tête, c'est de tout exploser. Et pour me... Pour moi, personnellement, tu vois, me dire j'ai accompli ce que je voulais faire, tu vois, et je me dis que tout est possible. Nous, on est les... moi, je suis l'exemple parfait que tout est possible aujourd'hui. Je suis pas de ceux qui normalement vont dans cette direction. Au contraire, tu vois. Mais ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous.
Hmm. Merci pour ce partage. Franchement, j'ai adoré cet épisode. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait près d'une heure et demie qu'on est. Live ensemble, on pourrait discuter encore des heures et d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode encore une fois, eh bien faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, partagez cet épisode, on fera également un article LinkedIn au sujet de cet épisode, on mettra tes liens d'ailleurs Charlie et les liens de la marque directement aussi en description de l'épisode. J'ai une dernière question à te poser que je pose du coup à chacun de nos invités sous le déclic. Est-ce qu'il y a un déclic que tu aimerais partager qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode ? J'ai envie de dire que tu n'as jamais partagé dans aucune interview, mais je sais que c'est la première fois que tu te plies à cet exercice. Et d'ailleurs, quel exercice ! Tu l'as superbement bien fait, donc ça fait super plaisir d'avoir pu
j'espère.
Vivre ce moment avec toi. Ta carte blanche pour le mot de la fin. On a hâte d'en savoir plus sur ton déclic.
Écoute, c'est une question qui est simplement posée, mais qui peut être assez difficile à répondre. Je pense que si j'ai un déclic à partager, c'est aller vers suivez votre instinct. Suivez votre instinct. La vie va naturellement vous orienter vers des directions. Moi, je prends souvent l'exemple des sportifs. Les sportifs, généralement, ils tombent un peu par hasard dans des disciplines et naturellement, ils poussent dans cette discipline et ça se passe généralement bien pour eux tant qu'ils peuvent le faire. Et ben, je pense que c'est pareil dans la vie. N'essaie pas de rentrer dans des cases, n'essaie pas de rentrer dans des moules. Le monde, il évolue très vite. Moi, j'étais destiné à faire tout autre chose aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui et ce qui fait notre succès et ce qui va faire notre fortune dans le futur, c'est pas ce que je faisais il y a 5 ans et c'est peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'idée, apprenez à vous connaître et le meilleur moyen d'apprendre à se connaître, c'est en testant des choses, en étant curieux et ouvrez votre esprit et voilà.
Merci Charlie.
Merci Alec.